Marceau. Le matin, le matin. Ben oui.
h 30, bon mercredi, bienvenue sur les ondes de boulevard 102.1. Si vous avez des choses à nous dire, se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021 actuellement sur Québec. C'est moins 17 avec le vent, pas chaud pour la pompe à l'eau comme on disait dans le temps. C'est une température ressentie de moins 23. On habille confortablement les enfants pour pas qu'ils hèlent des petites mains. Accumulation de neige entre 2 et 4 cm aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de prévu. Maximum de moins 6 degrés, donc ça devrait se réchauffer. Ce soir, cette nuit, des averses de neige entre 2 et 4 cm. Donc aujourd'hui, c'est un 8 à 10 cm qu'on pourrait recevoir là, selon les divers sites de météo. Température stable à près de moins 6 pour ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, des averses de neige qui devraient cesser en mi-journée. 40% de probabilité d'averses de neige par la suite avec un maximum de moins 3 degrés. Et vendredi, ce sera un maximum de moins 4 degrés. Ce sera un ciel nuageux. Max, sur la route.
Un petit peu d'attente pour la Porte-Nord. C'est tout.
Merci beaucoup. 6h31 en manchette.
Les news 102.1.
En ce 25 février, tu nous apprends quoi?
Quand même pas mal de stock, fait qu'on va y aller rondement. Le SPVQ qui est intervenu sur la rue de l'Amazone dans le secteur des Châtels vers 21h30 hier soir à la suite d'un signalement concernant un homme en crise et potentiellement armé dans une résidence. Les premiers patrouilleurs qui ont voulu établir un contact avec l'homme dans la trentaine sans succès. Les pompiers qui ont été amenés sur place en raison de menaces d'incendie qui ont été proférées. L'intervention qui s'est terminée, personne n'a été blessé, fait que bonne nouvelle. Le procès de l'ex-entraîneur de cheerleading de Québec, Mathieu Martel, qui se poursuit, lui qui est ciblé par une trentaine de chefs d'accusation à caractère sexuel. Hier, les deux premières présumées victimes témoignaient pour raconter ce qui se serait passé. Dans un premier temps, une plaignante aurait lié des propos qu'aurait tenu Martel à son endroit dès ses 13 ans, comme « t'es sexy, t'es belle, je t'imagine dans mon lit ». Des captures d'écran de conversations Snapchat entre elle et l'accusé qui ont été déposées en preuve. On dit aussi que dans une activité de cheerleading dans un chalet, Mathieu Martel aurait à un certain point chuchoté à l'oreille de la présumée victime de préparer son condom parce que ça allait se passer. L'école Pointe-Lévis de Lévis a dû fermer ses portes hier midi en raison d'une vapoteuse coincée dans un conduit des toilettes qui a provoqué un refoulement d'égout. Fermeture qui a été annoncée à midi en raison d'un problème majeur touchant les blocs sanitaires de l'école et le Soleil a obtenu la confirmation plus tard hier que c'est bien une vapoteuse qui avait causé problème en bouchant les tuyaux. L'établissement qui peut reprendre ses activités dès aujourd'hui.
J'ai rien qu'il y a mis une vapoteuse dans
les toilettes. C'est ce qu'on comprend.
OK. Elle voulait pas se faire pogner?
J'imagine. Puis c'est ça. Ça a causé des petits
dégâts. C'est un drôle de réflexe. Il y en a qui mettent des couches jetables dans des toilettes.
Toilettes.
Les gars de la ville se ramassent avec ça. Là. Ça bouche les tuyaux, puis ils doivent faire ça. Des bobettes sales. Il y en a qui sont pas capables de s'en débarrasser. Ils sont aux Galeries de la Capitale, exemple, puis il est arrivé un petit dégât. Ils mettent ça directement dans les toilettes. Mais ça bouche les tuyaux. Là.
Ben oui.
Mettez ça dans les poubelles.
Mais c'est...
La Ville de Québec présente hier un état d'avancement de la planification des travaux préparatoires du tramway en fonction des informations actuellement disponibles. Les premiers travaux qui vont se concentrer là, dès la fin du mois de mars dans la partie ouest du tracé vont débuter par des interventions en foresterie urbaine avant de passer à la construction des réseaux municipaux souterrains et aux ajustements au réseau technique urbain. Il y a d'autres travaux qui vont permettre aussi de préparer la montée Mendel et son pont d'étagement à accueillir le tramway. Bruno Marchand qui s'est défendu de sortir sans avoir toutes les informations en disant qu'il préférait informer la population au fur et à mesure qu'il obtenait lui-même les différentes informations que d'attendre de tout avoir puis de tout dire en même temps. Il préfère y aller graduellement là, de cette façon-là.
D'ailleurs, notre journaliste sur la route, Mathias Turcotte, qui a assisté à la conférence de presse hier, qui sera là avec nous vers 8h45 pour nous expliquer tout ce qu'il a appris. Et tantôt, vers 6h45, on sera en mesure de vous faire entendre des extraits du maire Marchand qui était sur nos ondes hier.
Le parti d'opposition municipale Repensons Lévis qui demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de déclencher une enquête externe après la divulgation d'un avis juridique indiquant que la ville connaissait la saturation de sa station d'épuration avant d'imposer un moratoire sur les constructions. Son chef, Serge Bonin, affirme que des informations auraient été dissimulées et réclame des explications de l'administration municipale. Le cabinet de la ministre Geneviève Guilbeault, qui juge la situation préoccupante, a demandé à la Commission municipale du Québec d'évaluer les options d'intervention. Le maire Stephen Blainey, qui rejette la nécessité d'une enquête externe, garde sa confiance lui envers l'administration municipale. Un avis juridique interne obtenu par Radio-Canada révèle que la ville de Lévis avait été mise en garde dès le printemps 2024 concernant l'état critique de la station de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas. Le directeur des affaires juridiques, Simon-Robert Gevalière, signalait que l'installation ne respectait plus les normes de rejet depuis 2023 et recommandait l'imposition rapide d'un moratoire sur les nouvelles constructions. Et là, finalement, on a attendu jusqu'à ce que vraisemblablement il soit un petit peu trop tard.
Ouais, tout ça va se ramasser en cours, Jeff, et ce que la ville va devoir démontrer, c'est qu'elle avait une gestion rigoureuse de son territoire.
Exactement.
Probablement que Gilles Laulier va être appelé à la barre pour témoigner.
Oui.
Puis je vous garantis que ça devrait coûter cher à la ville de Lévis parce qu'il y a eu du laxisme. Mais la ville ne sera pas capable de dire qu'ils ont été rigoureux dans la gestion du territoire.
Impossible.
Alors qu'il y avait tous les contrats devant eux.
Impossible. J'ai assisté hier à la conférence de presse, justement, des deux conseillers municipaux de Lévis Force 10. On a eu également Benoît Forget-Chiasson dans l'émission On en jase. Puis, tu sais, les réponses sont trop approximatives pour qu'en cours, on paye pas.
Des médecins de famille pourront être payés trois fois juste pour inscrire des patients qu'ils ne verront jamais. C'est le Devoir qui rapporte la situation ce matin, expliquant que dans les groupes de médecine de famille, des médecins exigent que des patients soient inscrits à leur nom, mais délèguent ensuite tous les suivis à des infirmières praticiennes spécialisées, manœuvre qui permet aux médecins d'empocher les primes rattachées à l'inscription de patients sans avoir à les voir. On mentionne que la façon de faire donne aussi l'impression que le nombre de patients inscrits auprès d'un médecin augmente, alors que c'est pas vraiment le cas. L'Association des IPS du Québec qui déplore la situation et demande la fin définitive des inscriptions au nom d'un médecin. Après avoir appris hier qu'au moins 1000 employés d'école menacés sont 1000 employés d'école sont menacés d'un départ forcé en raison de la fin du PEC, on apprend ce matin, toujours via Radio-Canada, que les dossiers de 444 éducatrices à la petite enfance sont en attente. On peut lire qu'il y a trois fois plus de candidatures en attente d'éducatrices et d'aides éducatrices issues de l'immigration que de dossiers sélectionnés par le PSTQ, le nouveau programme qui doit mener à la résidence permanente. Et dans ce contexte-là, bien, certains employés se préparent déjà à quitter le Québec parce qu'ils sont tannés d'attendre puis de ne pas être sûrs qu'ils auront leur place. Québec permettra la vente des prêts-à-boire à base d'alcool distillé dans les dépanneurs et les épiceries. Ça met en quelque sorte fin au monopole de la SAC. Là, il y a quand même quelques astérix à ça, notamment la SAC qui va garder une marge sur ces ventes-là, les modalités qui restent à déterminer. Mais bref, là, on va avoir la possibilité de vendre des prêts à boire du côté de micro-distillerie. On peut ainsi penser que la distribution là, sera élargie à plus de 7000 commerces. Fait que c'est une excellente nouvelle. Et je termine avec ça. C'est hier soir que Donald Trump présentait l'annuel discours sur l'état de l'Union, événement au cours duquel le président américain revient sur ses réussites, mais normalement, surtout, bien, présente son programme pour la suite des choses. Puis hier, ça a beaucoup été durant 1h48. En passant à ça, c'est un record pour un discours de l'état sur l'état de l'Union. Là. Ça a été beaucoup de parler de son bilan pour Donald Trump sans vraiment présenter de plan d'avenir. A longtemps vanté son bilan économique. A pas été si dur que ça envers les juges de la Cour suprême. On se demandait, là, finalement, ils ont pas planté autant qu'on pensait peut-être qu'ils allaient y planter pour la décision sur l'invalidation de certains tarifs. Par contre, envers les démocrates, là, a pas été clément du tout. Les a notamment traités de fous et de malades. Trump a aussi profité de son discours pour annoncer que le gardien Connor Hellebuck recevra la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis pour sa performance de dimanche qui a permis aux Américains de remporter l'or face au Canada.
7h30 ce matin, Luc Laliberté sera avec nous pour parler justement de ce discours de l'état de l'Union de Donald Trump. On va parler aussi du fait que ça a été un des discours les plus longs de l'histoire, sinon le discours le plus long de l'histoire, qui a tracé un bilan assez particulier là, de sa première année où il met ça extrêmement positif. Puis les Américains sont pas très alignés là, sur les prochains mois de Donald Trump suite à son discours. Donc, on va jaser de ça avec Luc Laliberté tantôt. Sinon, moi, Jeff, il y a une nouvelle qui m'a marqué dans l'actualité ce matin. Ça passe dans le soleil. Tu te souviens de M. Landry, qui est propriétaire de Bière et Frites?
Bien sûr!
On en avait parlé avec Denis dans le Pit Stop, qui sera avec nous vers 7h55 ce matin. Il y a un inspecteur de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui fait face maintenant à des accusations criminelles après avoir fabriqué une fausse plainte contre un restaurant. On parle d'une faute pour laquelle son employeur lui avait imposé 2 jours de suspension. C'est un article du Soleil ce matin qui parle de la situation au grand complet. Mais en résumé, là, l'inspecteur de la Régie des alcools s'est envoyé à lui-même une fausse plainte pour ouvrir un dossier pour aller voir ce qui se passait au restaurant Bière et frites.
Ça n'a aucun sens.
Et on a enfantchianisé la vie de M. Landry ouais. pendant des mois et des mois. Mmh. Et à un moment donné, il y a un employé de la Régie des alcools qui a dit à M. Landry, il a dit la vérité. M. Landry était fâché, il a commencé à se plaindre. Et là, ben, il y avait l'inspecteur de la Régie des alcools qui était sous la sellette. Puis il y avait cette dame-là, qui était un peu la whistleblower, là, celle qui avait vendu la mèche, comme quoi tout ça s'était arrangé avec le gars des vues. Qu'est-ce qu'on a fait à l'interne à la Régie des alcools du Québec? Ben, on a pris la whistleblower, puis on lui a dit, tu sais quoi, toi, t'as dit la vérité, on va te crisser dehors. Puis on a pris l'inspecteur qui avait fabriqué une fausse plainte, puis on lui a dit... Toi, ça va être deux jours
de suspension.
De suspension.
Hey, sans comme... solde, mon salaud!
Comme on fait dans les syndicats, où on met dehors les lanceurs d'alerte, on paye des enquêtes pour trouver les lanceurs d'alerte,
ouais.
mais ceux qui boivent des scotch à 80$, on leur donne juste une petite tape sur les doigts.
Il y a de quoi qui va pas à la Régie des alcools du Québec. Puis là, on parle d'un cas. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est un enquêteur qui a fabriqué un faux document pour ouvrir un dossier sur un restaurateur de Québec.
Ouais.
Puis on l'a suspendu deux jours. Je présume, j'ai aucune preuve, mais je présume que ça doit pas être la première fois qu'un employé à Régie des alcools du Québec, un inspecteur, fasse une affaire comme ça. Parce que visiblement, pour deux jours de suspension, ça veut dire que c'est accepté à l'intérieur.
Ben exactement. Et qu'est-ce que ce commerçant avait fait au juste? Il a juste vendu de la poutine, puis il a vendu de la bière, puis du vin.
Ouais, il est moins cher que ben du monde.
Ben je sais, puis ça fait chier le monde.
Ça fait chier ben du monde. Donc Sylvain Leblanc, l'inspecteur, fait aussi face à deux autres accusations pour utilisation d'un document contrefait et entrave à la justice. Toutes les infractions reprochées à l'inspecteur auraient été commises à l'automne 2021. Je trouve ça franchement intéressant, ce dossier-là. Puis, tu sais, quand on parle de corruption, là, il n'y en a pas juste, il y en avait pas juste au Parti libéral.
Non.
dans le temps. Il y en a aussi dans nos organismes gouvernementaux. Puis il y a des petits crosseurs qui l'ont facile à l'interne, qui sont là juste pour faire chier l'honnête citoyen. Puis moi, quand il y en a un qui se fait pogner, là, on ne sait pas s'il est coupable ou non, mais quand il y en a un qui se fait pogner, si on peut être le plus sévère possible avec
ben
cet individu-là
oui.
pour que ça donne un exemple à tous les autres, soyons sévères envers cet individu-là.
Claire.
Fabriquer des preuves, no way.
Ben non, clairement, il faut avoir confiance en nos institutions. Puis là, ben, c'est une perte de confiance totale qu'on a là, avec un individu comme ça, et surtout avec la conséquence qui est donnée, qui est complètement ridicule.
Ouais.
Deux jours sans salaire, là, voyons donc.
Ce tata-là s'est écrit à lui-même un courriel dans lequel il modifiait son vocabulaire puis il faisait des fautes intentionnelles.
Épouvantable.
Fait que vous allez me dire que c'est la première fois qu'il faisait ça?
Ben non.
On en reparlera avec Denis tantôt dans le Pit Stop. 6h43, les sports.
Les sports. Sports.
Max.
Les activités qui reprennent ce soir dans la Ligue nationale de hockey. 8 matchs à l'affiche. Flyers, Capitals, Sabres, Devils, Maple Leafs, Lightning, Kraken, Stars, Avalanche, Mammoth, Golden Knights, Kings, Jets, Canucks et Oilers, Ducks. Le Canadien de Montréal, lui, qui reprend l'action demain. Les Islanders de New York qui seront en ville. Il y a eu deux transactions hier dans la LNH. Une plus importante et ça implique deux noms bien connus au Québec. Un qui est un ancien du Canadien de Montréal, Brett Kulak, qui avait été échangé plus tôt cette année avec Stuart Skinner des Oilers aux Penguins, mais maintenant Kulak passe à l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh, eux, mettent la main sur Samuel Girard, le Québécois, avec un choix de deuxième ronde. Et là, ben, on se demande si c'est pas un move qui en prépare un autre pour l'Avalanche parce qu'on va économiser de l'argent sur la masse salariale en passant Girard pour Kulak. On gagne en expérience un peu aussi. C'est un move que je déteste pas du tout là, pour les Avs. Il y en a qui disaient que c'était très cher payé, un choix de deux, puis Girard pour Kulak. Samuel Girard n'est plus ce qu'il a déjà été. Là,
non, puis il est encore sous contrat l'an prochain
à
aussi,
5 millions.
À 5 millions donc on économise l'argent du côté de l'Avalanche.
Exactement.
Merci beaucoup. Courte pause, on revient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,